Bonsoir à tous. L'Europe, encore l'Europe, tenait à 9 mois des élections. Plaidoyer progressiste d'Emmanuel Macron en terre progressiste, le Benelux, correspondance de Quentin Dickinson. L'État profond est devenu fou, selon Donald Trump. Les États-Unis sont peut-être en train de vivre une sévère crise constitutionnelle. La Maison-Blanche appelle à la délation afin de mettre un nom au bas de la tribune assassine et néanmoins anonyme publiée par le New York Times. Précision de Grégory Phillips. La Cour pénale internationale se déclare compétente pour statuer sur la déportation au Bangladesh de la minorité musulmane Rohingya par les forces armées birmanes. Explication de Pierre Benazet. Invité de cette édition, Jérôme Teilhard, en charge de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. La ministre Frédérique Vidal déclare aujourd'hui le dispositif a porté ses fruits. Nous entrerons dans le détail des relevés avec Hakim Kasmi. Le chef de l'État français cherche à reconfigurer, à repérimétrer la droite européenne et à la faveur d'un déplacement à Luxembourg, Emmanuel Macron a appelé le Parti populaire européen à clarifier ses positions. L'idée est de travailler à la structuration d'une plateforme progressiste en vue des élections de mai prochain et de conseiller aux chefs d'État européens d'être, ce sont ses termes, beaucoup plus durs et fermes avec la Hongrie, la Pologne et tous les pays qui ne respectent pas l'état de droit. Quentin Dickinson, les chefs d'État du Benelux sont acquis à la cause, voire plus.
En tout cas, ce n'était pas l'étape la plus ardue de la tournée européenne d'Emmanuel Macron. Ses interlocuteurs étaient tous trois libéraux, pro-européens, à la tête de pays fondateurs de l'Union européenne et de la même génération que lui. Détail fortuit, les quatre dirigeants étaient vêtus de façon rigoureusement identique, complète de pièces bleues, chemise blanche, cravate bleue. Et puis, contrairement à bien d'autres, les pays du Benelux ont toujours fait l'objet d'une réelle sollicitude de la part de Paris. Avec les Pays-Bas, il subsiste toutefois une réserve certaine quant aux propositions françaises en matière d'évolution de la zone euro. Mais cela apporte en fait de l'eau au moulin d'Emmanuel Macron, qui soutient que l'Europe de demain sera composée à la fois de pays membres, satisfaits de l'organisation actuelle, mais aussi d'autres pays qui seront d'accord pour une intégration davantage poussée dans des domaines précis sans que les autres puissent les en empêcher. Les divergences sont donc normales, répète-t-il, et les convergences bienvenues. Pas de difficulté ici non plus pour conforter l'alliance dite des progressistes européens qui entend s'opposer aux démagogues national-populistes tels qu'incarnés par Viktor Orban ou Matteo Salvini. En gros, sous nos yeux, se dessinent déjà les grandes lignes de la campagne des élections européennes avec 9 mois d'avance.
En Irak, le leader chiite Moqtada al-Sadr appelle le Parlement à tenir une séance extraordinaire et à exiger du gouvernement des solutions radicales et immédiates à la crise sanitaire qui a relancé la grogne sociale à Bassora. Bassora, dont plusieurs bâtiments publics sont en flammes ce soir, les manifestants dénoncent la corruption au sein de la classe politique et l'incapacité de l'État à assurer les services de base dans cette région la plus riche en pétrole d'Irak. Le couvre-feu vient tout juste d'être décrété ce soir à Bassora. Tirs d'artillerie de Damas et raids aériens russes au sud-est de la province d'Idlib. Un centre des casques blancs, ces secouristes qui interviennent dans les zones dites rebelles, a été détruit selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces américaines de l'intérieur auraient donné l'assaut, seraient entrées en résistance. L'une de leurs recrues a pris la plume et le New York Times a publié une salve qui a blessé l'homme fort de la Maison-Blanche en langage trumpien. Cela donne, je cite Donald Trump, « l'État profond et la gauche et leurs véhicules, les médias bidons deviennent fous ». Et ils ne savent plus quoi faire. Fin de citation. La tribune anonyme qui éreinte l'administration de Trump continue d'électriser le Landerneau et Grégory Phillips. La chasse aux traîtres est ouverte.
Oui, c'est la question que la Maison-Blanche et en fait tout Washington se pose. Qui est l'auteur de cette tribune anonyme? Le New York Times dit que c'est un haut responsable de l'administration de Trump, senior official, comme on dit ici, mais on ne sait pas si c'est quelqu'un à la Maison-Blanche ou en dehors et à quel niveau de pouvoir se trouve la personne qui a rédigé ce pamphlet contre le président. La situation est telle que deux des plus hauts responsables politiques du pays se sont crus obligés de dire qu'ils n'étaient pas à l'origine du texte. Le vice-président Mike Pence, son porte-parole, explique que lorsqu'il signe des tribunes, eh bien, il met son nom en bas de ses textes. Et depuis l'Inde, où il est également en déplacement, le secrétaire d'État Mike Pompeo a lui aussi dit que ce n'était pas lui. Ces deux démentis, ça vous donne quand même une idée de la crise politique qui est en train de se jouer ici. Donald Trump, lui, parlait hier soir de trahison et le site internet Axios, généralement très bien informé sur la politique américaine, explique que l'an passé encore, pendant quelques temps, le président se baladait avec sur lui une liste manuscrite de gens qu'il considérait comme des taupes au sein de son administration. L'épisode du New York Times ne va sans doute pas contribuer à arranger ce sentiment de paranoïa qui peut régner à la Maison Blanche. Et puis il y a quelques minutes, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a invité les supporters du président à appeler directement le New York Times pour connaître l'identité de celle qu'elle appelle un lâche, celui ou celle qui a écrit cette tribune, en donnant le numéro de téléphone du quotidien new-yorkais. Le standard, évidemment, risque d'exploser toute la journée.
Merci à vous, Grégory Phillips, à Washington. La procureure de New York appelle les victimes et témoins potentiels d'agressions sexuelles par des prêtres à sortir du silence en instaurant un numéro vert et un questionnaire en ligne. Il y a 3 semaines, nous prenions connaissance d'un rapport sur des abus sexuels impliquant plus de 300 hommes d'église et plus d'un millier d'enfants dans l'État voisin de Pennsylvanie. La Cour pénale internationale se déclare compétente pour enquêter sur la déportation de la minorité musulmane Rohingya en Birmanie. L'année dernière, plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh face aux violences commises par les forces armées birmanes et des milices bouddhistes. Le 27 août dernier, une commission d'enquête onusienne a estimé que les hauts gradés de l'armée birmane devaient être poursuivis pour génocide. La CPI s'est déclarée compétente, pas pour tout, mais un élément du crime. Le passage d'une frontière a eu lieu sur le territoire d'un État parti au statut de Rome de la CPI, en l'occurrence le Bangladesh. Pierre Benazet suit pour nous l'actualité de la Cour pénale internationale.
Les exactions commises à l'encontre des Rohingyas sur le territoire birman ne pourront jamais être jugées par la Cour pénale internationale parce que la Birmanie ne fait pas partie des signataires du statut de Rome, c'est-à-dire en quelque sorte l'acte de baptême de la CPI. Mais cette limitation n'empêche pas toute poursuite, c'est ce qu'a décidé une chambre préliminaire de la CPI, parce que, pour les 3 juges consultés, les crimes ont en partie été commis sur le territoire bangladais. Or, le Bangladesh reconnaît la juridiction de la Cour pénale internationale. En l'occurrence, il ne peut s'agir de l'ensemble des actes de persécution commis en Birmanie, quelle que soit leur gravité, mais en revanche, le crime de déportation est bel et bien de la compétence de la Cour pénale internationale, puisque les Rohingyas ont été forcés de pénétrer sur le territoire bangladais. Il reste cependant que cette décision des 3 juges préliminaires ne signifie pas automatiquement que les procédures vont être lancées. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, va devoir maintenant entamer un examen préalable. Si elle en conclut que des responsables birmans peuvent être poursuivis, elle devra à nouveau demander l'autorisation d'ouvrir formellement une enquête.
L'opposition nicaraguayenne appelle à la grève générale demain, grève générale de 24 heures dans le secteur privé pour demander la libération de centaines de prisonniers politiques et la reprise du dialogue avec le régime du président Daniel Ortega. En France, 12 perquisitions menées aujourd'hui au siège de 4 grands fabricants et distributeurs de matériel électrique à la suite de signalements émanant de l'autorité de la concurrence et de l'agence française anticorruption. Legrand, Rexel, Sonepar et Schneider Electric sont soupçonnés, entre autres, d'ententes illicites, faux, usage de faux, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et de corruption d'agents publics. Le chef de l'État français a promis cette fois de reconfigurer la charpente des services de la présidence, conséquence fâcheuse de l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, que la commission d'enquête du Sénat pourrait bien convoquer sous peu. En attendant, elle auditionnera mercredi prochain le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, François-Xavier Lauche, et le général Éric Bio-Farina, commandant militaire de la présidence de la République. Hier soir, fin de la phase principale de la procédure d'inscription à Parcoursup avec cette déclaration de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, selon laquelle ce dispositif a porté ses fruits. Quelques données chiffrées, l'on dénombre 7000 élèves sans affectation, dont un peu plus de 3000 bacheliers. Une dernière statistique, environ 600 000 des 812 000 inscrits ont accepté une proposition, 180 000 ont quitté la plateforme. Invité de notre édition comme convenu, Jérôme Taillard, responsable de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Et à mes côtés, Hakim Kasmi, spécialiste éducation de la rédaction. Bonsoir, Hakim.
Bonsoir, Mathieu.
Vous allez nous expliquer, Jérôme Taillard, que c'est mieux qu'APB à la même époque. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, les chiffres sont conformes à vos attentes, vos prévisions ?
Écoutez, ce que l'on a souhaité faire avec Parcoursup, c'est un dispositif qui, à la fois, laisse du temps aux étudiants pour choisir la formation qui leur correspond le mieux, mettre en place un véritable accompagnement, à la fois au lycée, et rendre un accompagnement possible dans la licence, dans l'université, pour accompagner vers la réussite, et organiser à travers la plateforme la transition, en quelque sorte sécurisée, entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur.
Bon, ça c'est l'esprit, monsieur Taillard, mais il y a des chiffres.
Oui, il y a des chiffres. Aujourd'hui, la ministre l'a dit, nous sommes concentrés sur un peu plus de 3000 lycéens que nous accompagnons pour trouver des propositions. Et nous ne manquons pas de place, puisque, comme l'a dit la ministre, 127 000 environ places vacantes sont disponibles sur l'ensemble de la France, avec des places aussi bien dans des licences que dans des formations sélectives, que ce soit des classes préparatoires aux grandes écoles ou même des BTS. Donc, on a un sujet d'articulation et on travaille avec ces 3000 lycéens. Qui sont-ils, ces 3000 lycéens? Ce sont pour l'essentiel des bacheliers professionnels, des bacheliers technologiques, dont le choix qu'on fait avec eux, c'est pas de les envoyer vers des licences où ils ne sont pas préparés et qui ne correspondaient pas à leur projet, c'est de travailler avec eux pour les accompagner vers la formation dans laquelle ils sont le plus à l'aise pour réussir. Et ça, ça demande un travail. Ce sont des jeunes, moi, quand je dialogue avec les académies, ce sont des jeunes qui n'existaient pas auparavant parce qu'ils n'étaient pas accompagnés, c'est-à-dire qu'ils disparaissaient dans la nature. Le choix qui a été fait cette année, c'est véritablement de mettre en place un service public d'accompagnement de ces jeunes, et nous les accompagnons les uns après les autres, pour organiser véritablement une adéquation entre leur projet et la formation qui va les accueillir.
Monsieur Teilhard, une question d'Hakim Kasmi.
Alors vous le disiez, beaucoup de jeunes issus des filières professionnelles, c'est environ la moitié d'à peu près 4000 le bachelier qui n'ont toujours rien pour l'instant. On le sait aujourd'hui, il y a un fort taux d'échec. 3% des bacheliers professionnels ont du mal à l'université. C'est aussi à cause du fait qu'il manque des places. Alors vous allez me répondre, oui, mais en BTS, on va créer 2000 places supplémentaires. Est-ce que cela va suffire et comment, du coup, éviter l'orientation subie pour les bacheliers professionnels?
Là où vous avez raison, c'est que le dispositif précédent, en fait, n'avait pas une orientation accompagnée et ne prévoyait pas assez de place pour les filières qui sont les privilégiées pour ces bacheliers professionnels, qui sont les formations STS. Ce que l'on a fait cette année, c'est à la fois, un, de créer des places supplémentaires en BTS, deux, de créer aussi des places, on les appelle les classes passerelles de transition, qui ne sont pas des voies sans issue, comme je peux le lire là ici, mais qui garantissent à la fois une consolidation des acquis et une vraie perspective d'entrée dans des BTS. Et puis le troisième élément, c'est une véritable politique active pour donner une priorité d'accès dans les BTS. Pour la première fois cette année, l'ensemble des recteurs ont mis en place des taux qui fixent des seuils, en quelque sorte, et qui donnent un véritable droit de priorité pour ces bacheliers professionnels pour accéder à des STS. Ça n'est pas simplement une volonté de privilégier les uns par rapport aux autres, mais c'est leur donner les moyens d'accéder aux formations qui sont le mieux faites pour qu'ils puissent réussir.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a certains présidents d'université qui disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens financiers de mettre en place ces fameuses passerelles. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors, les classes passerelles, ce sont dans les lycées professionnels pour accompagner des jeunes bacheliers professionnels vers les BTS. Ce que l'on fait à l'université, c'est mettre en place des dispositifs d'accompagnement dans les licences. Alors ça s'appelait les Wifi sur Parcoursup. Et le gouvernement a débloqué 8 millions d'euros pour permettre aux universités de mettre en place ces dispositifs. C'est tout à fait novateur. Ça amplifie un mouvement qu'avaient déjà engagé les universités. Et dans les prochaines années, il y a déjà un plan sur le plan de financement du plan étudiant. On a prévu des moyens supplémentaires pour être à la hauteur de la montée en charge de ces dispositifs. Moi, je pense que c'est une véritable opportunité parce que l'université se met en capacité de personnaliser ses enseignements. C'est tout à fait cohérent avec la réforme de la licence. Si on revient aux origines de la loi orientation réussite des étudiants et de Parcoursup, quel est l'objectif? C'est mettre fin au tri social par l'échec.
Jérôme Teilhard, dernier point. Les universités sont désormais en position de force pour choisir leurs candidats, ce qui peut parfois avoir des effets discriminants. Confère, et Hakim Kasmi l'a vérifié en reportage, des élèves de Seine-Saint-Denis qui n'ont pas eu accès à des facultés parisiennes malgré de très bons résultats.
Je crois qu'il faut revenir aussi à la réalité des chiffres et des faits. Je crois que la ministre, elle aura l'occasion de s'exprimer à la fin.
C'est à vous qu'on pose la question ce soir, monsieur Teilhard.
La réalité de Parcoursup, c'est que on met en place un véritable dispositif de régulation pour permettre l'accès. Quand on était ne serait-ce qu'au mois de juillet, on constatait déjà que Parcoursup faisait de meilleurs résultats sur l'accès des jeunes de Seine-Saint-Denis ou de l'Académie de Créteil plus globalement vers les places de formation parisiennes. Mais je voudrais dire le sens véritable. Avec APB, la mobilité, elle était quasiment pas possible puisqu'on avait une priorité académique absolue. Avec le dispositif Parcoursup, on met en place des éléments de régulation, des outils de régulation et une concertation avec les recteurs. Sans doute y aura-t-il des modifications, des améliorations, on le verra, c'est le sens de la concertation que va engager la ministre, mais il n'y a pas eu de discrimination engagée par Parcoursup. Je sais que le mot, on le voit manipulé un peu partout, ça n'est pas la réalité des faits. Et les faits, ils seront exposés avec l'ensemble des chiffres lorsque le bilan sera fait une fois la procédure achevée.
Et le bilan, il sera fait le 21 septembre prochain. Merci à vous, Jérôme Teilhard, d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée.
Merci à vous. Au revoir.
L'on a appris il y a moins d'une heure la disparition de l'acteur américain Burt Reynolds, grandiose dans Deliverance, John Borman, 1972, ou encore Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Il était encore en tournage sur le dernier film de Quentin Tarantino. Burt Reynolds avait 82 ans. Les très grandes lignes météo de demain, vendredi, le temps sera marqué par des averses sur les reliefs, tandis que le soleil parviendra à s'imposer sur le pourtour méditerranéen. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto, à la technique Kevin Boisseau.